Avec David Abiker.
C'est l'heure des voix de l'économie à 7h13 sur Radio Classique. François, vous en parlez maintenant avec le directeur de la stratégie de Montpensier Finance. Vous évoquez les marchés financiers.
Bonjour Wilfried Galland.
Bonjour François.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes un grand spécialiste effectivement des marchés financiers. Et nous sommes en pleine séquence de banque centrale. Il y a eu le tournant de la Banque du Japon hier. La Fed ce soir pour évoquer le calendrier de la baisse des taux très attendu par les marchés. Pour ne citer que ces deux grandes banques centrales. On a l'impression que les risques, à côté de ça, montent un peu partout, géopolitiques et autres, et que les marchés n'en ont rien à faire.
Non, en fait, les marchés, vous savez, on dit toujours que les cours de bourse sont les données d'aujourd'hui et les histoires de demain. C'est comme ça qu'on les construit. Les données d'aujourd'hui, effectivement, on le voit, hein, c'est une conjoncture économique qui tient très bien, des résultats d'entreprises qui ont été très bons au premier trimestre, et un certain nombre de perspectives, on en parlera, plutôt favorables en termes de taux d'intérêt. Les histoires, c'est effectivement d'abord une histoire d'intelligence artificielle qui pourrait redonner une croissance mondiale supérieure à ce qu'on a vécu ces derniers temps. C'est l'espoir des marchés. C'est une histoire aussi de croissance qui ne s'arrête pas malgré justement la hausse de taux. Hein. C'est ce fameux scénario de non-atterrissage. En fait, on parlait d'un atterrissage en douceur. Maintenant, on commence à parler de non-atterrissage.
On parlait même de récession à un moment donné.
Voilà, exactement.
On disait la seule façon de sortir d'une période d'inflation, c'est une bonne petite récession et puis ça repart.
Voilà, exactement. Et là, on se rend compte que un peu comme lorsque les marchés ont absorbé et l'économie ont absorbé remarquablement les hausses de taux de 94-95, même si on partait de beaucoup plus bas en termes d'inflation. L'économie se porte très bien malgré des pressions financières très fortes. Et la troisième histoire, effectivement, c'est la baisse des taux d'intérêt avec, on se rend compte, malgré là aussi des perspectives qui sont un petit peu moins favorables en termes de baisse de taux d'intérêt qu'en ce qu'on pouvait avoir au début de l'année, on garde toujours cet espoir d'avoir une pression financière sur l'économie mondiale qui va diminuer et qui va diminuer en particulier sur un certain nombre de secteurs comme l'immobilier ou comme tous les secteurs qui sont véritablement en prise directe avec ce coût du loyer de l'argent qui quand même commence à peser sérieusement. Donc ces trois histoires-là avec des résultats qui sont quand même corrects font qu'effectivement les indices sont à des plus hauts historiques, en particulier effectivement notre indice français qui vient de signer un record hier.
8201 points hier. Exactement, soir à la clôture. Est-ce que l'environnement général des marchés est en train de changer? On parlait de point de bascule.
En fait, c'est un point auquel il faut prêter attention parce que souvent au milieu du mois de mars, hein, on parle de la période des ides de mars sur les marchés. Les ides de mars, vous savez, c'est le moment en 44 avant Jésus-Christ où Jules César a été assassiné sur le forum romain.
Alors je sais pas si les marchés financiers commémorent cette date.
Mais en fait, il se passe toujours quelque. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il se passe très souvent quelque chose en termes de changement d'ambiance sur les marchés. Et le 10 mars 2000, c'est le sommet de la bulle TMT, hein, technologie, médias, télécommunications. Ça rappelle les souvenirs à certains.
Internet.
Voilà la bulle Internet. C'est le moment où le Nasdaq franchit 5000 points. Ça paraît très très loin. Maintenant on est à 16000, hein, mais en séance, on a quand même mis 15 ans pour le récupérer cet indice-là. Plus près de nous, en 2020, le 10 mars 2020, c'est le plus bas historique des taux d'intérêt américains, 0,31% sur le 10 ans. Aujourd'hui, on est à 4,3%. Ouais. Et puis, il y a un an, c'était la faillite de Silicon Valley Bank qui a forcé la réserve fédérale et les banques centrales à remettre de l'argent dans le système pour éviter que le système financier commence à faiblir.
Et un peu après, Crédit Suisse absorbé par UBS.
Exactement. C'est le moment en fait, de l'année où les scénarios de début d'année sont revus, sont réévalués à la hauteur d'un certain nombre de perspectives. Et souvent, il y a des changements, donc il faut faire très attention. Et vous l'avez dit, on est au milieu d'une grande séquence de banques centrales. On va attendre ce soir la réserve fédérale. On a eu un tournant de la banque du Japon qui était quand même un tournant très important. Hein. Il y a eu un double pivot et demi, c'est-à-dire que ils ont effectivement remonté leur taux d'intérêt, c'est la première fois qu'ils le font depuis 2007. Ils ont également arrêté de dire je contrôle l'ensemble de la courbe des taux, c'est-à-dire l'ensemble des échéances de taux d'intérêt, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'arrête de faire ça également. Et puis quand je dis un demi pivot, c'est-à-dire ils ont arrêté d'acheter des actions directement sur les marchés. Vous savez que la banque centrale japonaise achetait des actions japonaises directement sur les marchés pour les mettre dans son bilan. Ça, ils ont arrêté. Ils continuent quand même à acheter des obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même en termes d'environnement général financier sur le monde, on continue à avoir une banque centrale qui continue à injecter des liquidités sur le marché. Ça reste là aussi un côté positif, mais néanmoins le climat peut changer. et pourrait changer ce soir si la Banque centrale américaine ne nous donne pas des perspectives, à la fois en termes économiques et en termes de hausse de taux, qui sont cohérentes, et en termes de baisse de taux exactement, qui seraient cohérentes avec ces fameuses histoires dont on parlait tout à l'heure.
Il y avait l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il peut y avoir là une petite correction? Parfois on parle de bulle, mais on dit mais non, il y a un vrai marché, il y a du vrai hardware aussi, c'est pas que des perspectives, il se passe déjà quelque chose.
Alors c'est clair qu'il se passe quelque chose, et l'élément le plus important, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut augmenter la productivité générale de l'économie et donc peut augmenter le rythme de l'économie. C'est ça en fait l'enjeu. Et on a un certain nombre de petits indices là-dessus. Au-delà effectivement des résultats, par exemple d'Nvidia qui sont très impressionnants et d'un certain nombre de résultats financiers. Les petits indices, c'est que quand on regarde un certain nombre de géants de la technologie, pas nécessairement les GAFAM, hein, quand vous regardez les Cisco, les Accenture, les IBM, tous continue à avoir un certain flux de destruction d'emplois. Or, certains me disent, oui, mais ils ont tellement embauché après le Covid, c'est normal, il y a un retour à la moyenne. Aux États-Unis, on n'a pas besoin de 3 ans pour supprimer des emplois.
Ça va très vite dans les deux sens.
Voilà, exactement. Et donc, si vous continuez après 2020 à en faire en 2022, 2023 et toujours 2024, ça veut dire que déjà, vous commencez à avoir cet impact sur la croissance. Ça veut dire que la croissance devient moins chère. En fait, dans un environnement où vous continuez à croître, parce que ces boîtes-là continuent à croître en chiffre d'affaires et en profitabilité. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'investir en termes de personnel pour continuer à tester des choses. Ça, c'est quand même très positif. Il faut voir quand même si ça continue et si on n'a pas plus de destruction d'emplois que de création. Aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Attendons de voir les équilibres quand même. Là aussi, on sera très très attentif sur les prochains trimestres.
Et plus globalement, Wilfried Galland, les États-Unis qui affichent une croissance très solide et même insolente, on regarde ce que nous on connaît en Europe, est-ce qu'il y a des points de vigilance? Et à l'inverse, la Chine qui déçoit un petit peu, est-ce qu'elle peut se réveiller?
Oui, alors c'est effectivement les deux éléments importants. Aux États-Unis, on a quelques points de fragilité. Quand on regarde le marché de l'emploi américain, on a détruit, entre juin 2023 et février 2024, 1,8 million d'emplois à taux plein. On a détruit de l'emploi à taux plein aux États-Unis. Donc on a recréé de l'emploi à temps partiel. Ça veut dire que les Américains, beaucoup sont obligés d'avoir 2 ou 3 jobs pour justement continuer à avoir leur niveau de vie. C'est un point de fragilité. On regarde aussi le taux de défaut sur les cartes de crédit, le taux de défaut sur les crédits immobiliers. C'est en train de remonter également sur les voitures. Donc il y a des points...
Il y a des signaux faibles.
Voilà, il y a des signaux faibles. Et... en Chine, on a en revanche de meilleures nouvelles depuis le début de l'année. On sent peut-être un début de retour à meilleure fortune, pas encore sur la consommation, mais sur l'investissement.
Il y a de la déflation. Hein.
Et exactement, mais sur l'investissement, ça commence à remonter. On le voit d'ailleurs avec le prix du cuivre, hein, qui remonte également. Donc là aussi, c'est un élément plutôt positif qui va dans le sens de cette fameuse histoire de pas d'atterrissage de l'économie mondiale, un environnement un peu magique que les marchés saluent. On va voir si les ides de mars qui se terminent à peu près à cette période-là sont un changement d'ambiance ou si, comme ça s'est passé quand même plusieurs fois dans l'histoire, il n'y a finalement pas d'ambiance et finalement ça continue.
Rappelez-nous la date avant Jésus-Christ.
C'était le 15 mars.
Mais de quelle année?
44.
44 avant Jésus-Christ.
Les 23 coups de couteau de Jules César.
2068 ans après, nous voilà en 2024.
Voilà.
Merci.
On
beaucoup.
Va attendre tout ça.
Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance.
La prochaine interview en latin avec François Geffrier. Avec les Romains. François, à demain, 6h pour la matinale de l'économie. Je vous parle de latin parce que à 8h moins quart, le journal imprévisible sera consacré au latin avec la sortie au cinéma du film Repetita, une histoire de prof qui emmène ses élèves à un concours international de latin. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique, la compétition entre Bruno Le Maire et Édouard Philippe a commencé. Radio Classique.